Bonsoir. Deux thèmes pour le débat de ce soir. Situation sécuritaire préoccupante à Beni. Les vice-premiers ministres de l'Intérieur et les ministres de la Défense ont apaisé la représentation nationale et sollicité un appui sincère de tout Congolais afin de mettre définitivement fin à ce phénomène. Au Congo central, le gouverneur de la province a été destitué par une motion de défiance examinée et votée par un groupe de 24 députés présents mercredi dernier à l'hôtel Bilolo. Tels sont les thèmes pour le débat de ce soir. Trois confrères journalistes participent à ce débat. Il s'agit de Freddy Chioyo, il est rédacteur en chef à la télévision RTVS1 et correspondant de la télévision Africa News. Bonsoir Freddy Chioyo.
Bonsoir cher Guy Maté.
Jean-Claude Bimoila, éditeur et rédacteur en chef du média en ligne toutheure.net. Bonsoir Jean-Claude Bimoila.
Bonsoir Guy.
Et John Kanyunyu, journaliste indépendant et reporter de guerre. Il est aussi correspondant de la Voix de l'Amérique, de l'Allemagne plutôt, d'Etchevelle à Beni au Nord Kivu. Bonsoir John Kanyunyu.
Bonsoir Guy Maté et bonsoir à tous les collègues qui sont au studio à Kinshasa.
Bienvenue à tous dans cette émission. Avant tout, on va écouter cette revue de presse que nous présente Kelou Kouté pour savoir comment la presse kinoise a traité l'actualité de la semaine.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la situation sécuritaire à Beni au Nord Kivu. Actualité.cd renseigne que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été convoqué à l'Assemblée nationale mercredi 4 décembre au Palais du Peuple pour répondre aux questions d'actualité relatives aux catastrophes naturelles et tueries à Beni soulevées par les députés. Selon Gilbert Kiankondé, plusieurs mesures sont déjà prises pour mettre fin à cette situation. Il s'agit entre autres du changement des commandements dans les zones opérationnel et la mise à la disposition de la population d'un numéro vert pour sa collaboration. Pour la prospérité online.net, la plénière de mercredi 4 décembre 2019 était plus que nécessaire pour la représentation nationale. Cette dernière, tenant à ses prérogatives constitutionnelles, était appelée à s'imprégner des informations sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC et des mesures arrêtées en vue du rétablissement de la paix à Beni, au Nord Kivu. Rendons-nous à présent dans la province du Congo central où le gouverneur à peine réhabilité a été déçu par l'Assemblée provinciale. Le mercredi noir que d'aucuns redoutaient a vécu à Matadi. Le 4 décembre 2019, les députés provinciaux se sont retrouvés au siège de l'hémicycle provincial pour se prononcer sur le oui ou le non de la motion de défiance déposée contre le gouverneur Atou Matubona par l'honorable André Massoumbou Baya, rapporte la prospérité. En dépit des incidents qui ont émaillé la plénière suivi de sa délocalisation à un autre endroit, 24 députés sur les 41 viennent de destituer le chef de l'exécutif provincial du Congo central. Est-ce la fin d'un feuilleton? Le dossier est suivi de très près et de partout, poursuit le quotidien. Le potentiel titre Congo central au bord de l'implosion. Réhabilité, le gouverneur Atou Matubona, finalement déchu par l'Assemblée provinciale dans les milieux nés Congo, fait observer le tabloïd. On n'a pas tolé le retour aux affaires de celui qui a désacralisé les valeurs Congo. La guerre des clans s'en est suivie avant que finalement, loin des installations de l'Assemblée provinciale, la majorité des députés provinciaux décident de la déchéance d'Atou Matubona. Selon le Phare, cette journée de mercredi a donné lieu à une grande confusion au Congo central. Le gouverneur Atou Matubona, visé par une nouvelle motion de défiance ressemblant comme une goutte d'eau à la première dont il était sorti vainqueur par 21 voix contre 19 en septembre dernier et finalement tombé mercredi 4 décembre 2019. On laisse entendre qu'après les incidents ayant marqué la plénière organisée au siège de cette institution provinciale à Matadi, coup de poing, coup de feu, chaises cassées, fauteuils éventrés, la détrognon a été délocalisée par un groupe de députés provinciaux, écrit le journal.
Merci, Kelly Nkouté. Un commentaire, Freddy Kiyoyo, rédacteur en chef à la télévision RTVS1, correspondant de la télévision Africa News. L'actualité est abondante. Quelle est celle que vous commentez ce soir?
En fait, je suis sidéré du comportement d'un député nommé Adrien Poba. Ce monsieur s'est évertué à attaquer le vice-premier ministre, ministre chef de l'Intérieur, hier ou avant-hier à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une première de voir un membre du législatif attaquer un membre de l'exécutif sans tenant devant témoin, devant caméra. Je pense à un comportement irrévérencieux, un comportement inacceptable. Peu importe les motivations qui ont mérité à ce comportement ignoble, je ne peux pas encourager qu'un député puisse se donner le courage d'agresser un membre du gouvernement, vice-premier ministre de l'Intérieur. Je pense que il y a de quoi à inculquer dans le chef de nos politiques un peu du civisme, un peu de moralité, parce que ça, c'est un comportement barbare qu'il faut dénoncer. C'est un comportement de la rue, c'est un comportement des gens qui n'ont pas une éducation de base, c'est un comportement des gens dépourvus de bonne moralité, de bon sens. En tout cas, j'ai pas aimé ça. J'ai tenu à commencer ce débat par ce point. Madame Abunda, speaker de la Chambre, a même instruit au protocole de l'évacuer de l'Assemblée. On ne sait pas. On n'est pas quand même sur un ring de boxe où on va commencer à se donner les coups comme ça vis-à-vis. Je pense que c'est mal parti. Et c'est là, rime avec ce que je qualifie de l'hypocrisie au niveau de la coalition qui se cache. Ça saute au jeu, tout le monde le dit. Il y a une sorte de rivalité au sommet de l'État que je condamne. Je pense que il faut qu'il y ait un franc jeu entre les deux alliés, entre les deux partenaires, parce que là, ce n'est pas bon. Ce qu'on nous livre comme spectacle, si t'as condamné, ce n'est pas sérieux. Quand nous disons que nous devons promouvoir l'esprit d'un état des droits.
Merci Jean-Claude Bimoila, éditeur et rédacteur en chef du média en ligne toutheure.net. L'actualité de la semaine que vous commentez, c'est laquelle?
Moi, c'est les inondations qui ont laissé toute la ville dans un état de délabrage très avancé. Et il traduit effectivement le manque de politique, l'impuissance des gouvernants qui n'ont aucune capacité de prévision des catastrophes, ni aucun plan de gestion des catastrophes. Il y a des morts, il y a des inondations chaque jour, et après les inondations, la vie reprend. Il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui est prévu, il n'y a rien qui est annoncé. Donc on attend impuissamment les sorts s'abattre sur nous et prier Dieu pour que cela n'arrive pas. Rien que ça.
Merci John Kanyounou, journaliste indépendant et reporter de guerre. Vous êtes aussi correspondant de la voix de l'Allemagne, Deutsche Welle, à Beni, au Nord Kivu. C'est quoi l'actualité aujourd'hui à Beni, là où vous êtes actuellement?
Oui, à Beni, Guy Maté, ça va bien. Et toutes les activités entreprises et tout va bien après le début d'une semaine tellement agitée. Je rappelle aux auditeurs des Radio Capi que le lundi, nous étions tous appelés à marcher pieds nus. Et c'était la première dans cette région. On n'avait pas à faire parce qu'on était obligé de d'obtempérer à un ordre. Nous savons pas venu de qui. Et heureusement que les jeunes qui avaient donné ces mots d'ordre n'étaient pas à bon odeur de sainteté avec les vieux de la communauté Nandé, appelée communauté Ira, donc regroupés dans le Kianda Ira. C'est une barza des Nandais. Et quand tout le monde s'y est opposé le mardi, parce que les donneurs de cet ordre-là ont demandé à toute la population de Beni, tout le monde qui était à Beni, de marcher pieds nus du lundi au mardi. Donc ce n'est que le mercredi que tout le monde pouvait porter ses chaussures. Et heureusement que la majorité s'était opposée à cet ordre-là. Et du coup, le président de la communauté Nandé, donc Ira, le Kianda Ira, et a parlé à certains confrères dans certains médias de Beni, dire que l'ordre n'était pas venu de lui, n'était pas venu de sa barza. Et du coup, il a instruit, il a demandé aux journalistes de toutes les radios de Beni de ne plus se fier aux ordres donnés par certains gens qui n'ont pas qualité. Donc, désormais, ce n'est que cette communauté-là ou cette barza-là qui aura à dire sur ce qui concerne le mot d'ordre de la communauté Ira ou la communauté Nandé.
Merci. Alors, un mot à tout le monde au sujet de la disparition, n'est-ce pas, de nos confrères journalistes, Mathieu Kamango, ancien de Télé 50, qui est décédé ici à Kinshasa la semaine dernière, et puis Jean-Louis Kalinda de Biwan, qui est décédé ici à Kinshasa aussi hier. Freddy Chiyoyo.
J'ai très mal au cœur, très mal au cœur, d'un vote avec c'est le premier, M. Mathieu Kamango, la veille de sa mort. Il a officié à un deuil au niveau de Lingwala. Je me sépare avec lui au niveau de 22h. Et le matin, j'ai un message, Mathieu est décédé. Je me dis, mais la vie, c'est quand même un fil. Donc la mort, elle est à nos côtés, elle a un pas de nous. À tout moment, elle peut nous prendre. Je compatis. Mais sauf que ce matin, je vois un communiqué par rapport à la levée du corps. On va pleurer Mathieu Kamango, un bon journaliste qui a survécu les régimes passés, Kabila et compagnie. On va le pleurer à Bandalungwa. Je ne minimise pas Bandalungwa, je ne minimise pas le terrain en face de la commune. Mais quand même.
Et évidemment, on ne va pas polémiquer.
Il n'y a pas de polémique.
On ne va pas polémiquer là-dessus.
Je plaide pour que Mathieu soit enterré, pleuré dignement. Maman Olive Lembe Kabila, on vous voit dans les actions. Ce qui est une bonne chose. Hein, c'est très bien. Mais j'étais un peu coup d'œil aux obsèques de Mathieu Kamango. On veut le pleurer dignement. Il a servi ce pays, il a servi la nation. Jean-Marc Assamba, DGTL 50, votre ex-agent, impliquez-vous que Mathieu soit pleuré dignement. Nous voulons être en toute sécurité dans ce deuil, qu'on mette les moyens conséquents, qu'on le loue un espace bien viable pour que nous, journalistes, puissions faire les déplacements de ce deuil-là.
Merci Jean-Claude Bimola. Un mot au sujet, n'est-ce pas, de la disparition de ses deux confrères Mathieu Kamango et Jean-Louis Kanyinda.
Toujours des regrets quand on perd un confrère qu'on a connu, qu'on sait brillant. La mort, elle frappe à toutes les portes, quand elle veut. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est la question de la sécurité sociale des journalistes. Mmh. On meurt, on est pleuré comme si on n'avait rien fait dans la vie. Et c'est le temps, d'en appeler au pouvoir public pour que nos médias, nos journalistes, tous les acteurs des médias vivent une vie digne et que lorsque mort survient, qu'on n'aille pas forcément toquer aux portes des gens, mais qu'il y ait des mécanismes institutionnels qui permettent de prendre en charge toutes les dépenses et enterrer dignement un confrère qui meurt. Voilà, il faut réfléchir sur la profession, il faut réorganiser chaque jour sur la profession pour que lorsque mort survient, que ça ne soit pas forcément les libéralités qui enterrent les journalistes, mais que son travail antérieur qu'il a fait soit en mesure de l'enterrer dignement.
Voilà. Merci John Kanunu. Un mot par rapport à la disparition de ses deux confrères Mathieu Kamango et Jean-Louis Kanyinda.
Oui, je présente mes condoléances à toute leur famille biologique et à la famille communicationnelle. C'est aussi une occasion pour moi d'en appeler à la responsabilité des employeurs. Bien sûr, nous autres sommes indépendants et il y a d'autres qui travaillent pour des médias connus. Et si l'État peut faire quelque chose pour que, après nous, nos enfants ne soient pas appelés à errer dans la rue comme si leurs parents n'étaient pas quelque chose ou n'avait pas fait quelque chose pour ce pays. Nous travaillons pour ce pays, nous travaillons pour notre population, et quand nous mourons, nous devons être enterrés en dignité, et nous devons laisser derrière nous les enfants qui seront connus, et peut-être qui seront pris en charge par soit les maisons qui nous emploient, soit par l'État. C'est pas pour rien que nous appelons quatrième pouvoir, et je pense que l'État doit tout faire pour nous mettre à l'abri de ce que nos familles vivent après nous.
Merci. Notre premier thème de ce soir, situation sécuritaire préoccupante à Béni. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense ont apaisé la représentation nationale et sollicité un appui sincère de tout Congolais afin de mettre définitivement fin à ces phénomènes. Au cours de leurs auditions mercredi dernier à l'Assemblée nationale, ces deux membres du gouvernement ont rassuré que les FRDC ont lancé depuis octobre dernier une offensive contre les groupes armés, dont l'ADF, et que les résultats sont très satisfaisants. Pour le ministre de la Défense, face à cette guerre asymétrique, les FRDC ont renforcé leurs méthodes et effectifs pour mettre fin à cette insécurité. Michel Kifinangoy pour les détails.
Depuis octobre, les FRDC ont déjà éliminé 4 des 6 leaders ADF et récupéré plusieurs villages et sites, renseigne le ministre de la Défense, qui déplore tout de même des preuves de complicité congolaise retrouvées lors des opérations.
Sur le terrain, nous avons ramassé des éléments qui parlent, des téléphones avec des numéros qu'on peut appeler même si certains sont en train d'être fermés. C'est pourquoi je parle d'un appui sincère.
Quant à la collaboration avec la MONUSCO, Emengo Imukena explique qu'il est normal que cette force se retire progressivement.
Nous avons besoin d'un appui parce que si eux, ils ont un drone et que nous en avons besoin, ils peuvent nous appuyer. L'appui de la MONUSCO est connu de tout le monde. Il est tout à fait normal que l'appui touche progressivement à la fin.
Pour lui, les FARDC ont la capacité de gagner toute seule cette guerre.
Manipuler la population qui souffre déjà, c'est faire la part belle au jeu de l'ennemi. Aux élus de continuer de sensibiliser nos électeurs.
Emengo Imukena plaide aussi pour la révision à la hausse du budget de l'armée afin d'être moderne, dissuasive et capable de faire face à toute attaque.
Merci à vous Michel Kifindango et Freddy Chiyoyo. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à la télévision RTVS 1 et correspondant de la télévision Africa News. Oui. Nous venons de suivre ce reportage de Michel Kifindango. On fait état, n'est-ce pas, de l'intervention des membres du gouvernement devant l'Assemblée nationale. Comment vous réagissez, n'est-ce pas, à l'évaluation que ces deux membres du gouvernement ont faite au sujet de la situation sécuritaire au Nord Kivu?
Belle évaluation. En donnant plus ou moins 700 rendus, 700-800 rendus, mais également, on a tué assez des ADF et des autres corollaires. Je note que c'est une belle évaluation, mais il faut aussi faire appel à l'implication de la population. La population sait identifier qui habite le coin, qui n'habite pas le coin. La population sait qui n'est pas de Béni, qui est arriviste, qui s'est introduit, puisque...
Alors, comment vous jugez cette approche qui consiste à dénoncer les gens qui viennent d'arriver dans les quartiers, des gens qui ne sont pas connus? Est-ce qu'il n'y a pas risque que l'on puisse tomber dans la délation, dans les règlements des comptes?
Oui, vous avez raison. Mais puisque j'ai suivi le patron de l'armée, M. Célestin Balad, a dit quoi? Si vous voulez bien, on peut finir cette situation avant le 15 décembre. Et puis, deux jours après, le porte-parole des forces armées à Béni, il dénonce une infiltration de l'ère des FARDC. Donc, vous avez entre guillemets des militaires au sein de l'armée qui seraient contre les prouesses qu'engagent les FARDC sur les ennemis. Donc, vous avez des militaires qui seraient contre ce que mènent les FARDC en termes d'opération contre les ennemis à Deflanou. Alors, moi, j'ai craint. Et quand j'ai suivi le porte-parole de l'armée faire mention de cela il y a trois jours passés, je me dis, mon Dieu, franchement, l'ennemi n'est pas seulement en face de nous, il est aussi dans nos rangs. C'est pourquoi nous demandons ce que la population puisse réellement s'impliquer. Le ministre a parlé hier, il craignait de tomber dans la livraison des secrets de défense, raison pour laquelle après cette restauration de M. Kifindangoy, on a déclaré le huclo. Il y a des choses à dire entre nous aussi, nos élus à nous. Nombreux sont ceux-là qui entretiennent cette crise et qui retrouvent leurs dividendes.
Est-ce que vous voyez quelqu'un comploter contre sa propre population, sa propre famille, avec quel intérêt?
Malheureusement, Mbusse Namou s'est passé chez vous il n'y a pas longtemps. Mbusse Namou a dit quoi? C'est ce qui serait entendu à Kinshasa parce que c'est politique. Alors, pour quel intérêt? Eux-mêmes savent. Mais au moins, les peuples souffrent, les gens meurent. Merci. Un peu de bonne foi, un peu, et un peu ce cœur-là pour ses compatriotes. Hier, les femmes parlementaires ont parlé. Ils ont dit, c'est comme s'il y a une complicité.
Merci.
Entre guillemets. Alors, pourquoi tu es complice envers ses proches?
Merci Jean-Claude Bimoila, éditeur et rédacteur en chef du média en ligne toutheure.net. En rappelant que l'offensive contre les groupes armés dont l'ADF est en cours depuis octobre dernier, les deux ministres qui sont intervenus mercredi dernier au Parlement estiment que les résultats sont très satisfaisants. Et au vu de ce qui se passe à Béni, comment vous jugez, n'est-ce pas, les résultats de ces opérations?
Moi, j'ai un questionnement. Les FARDC vont chercher les ADF dans la forêt, dans la brousse. Et eux viennent chercher les Congolais dans les cités. Je pense qu'il y a une différence d'approche ou une erreur d'approche. Comment nous pouvons aller chercher l'ennemi loin et lui vient nous chercher dans nos cités, dans nos villages, dans nos villes. C'est incroyable à ce niveau de responsabilité. Et c'est plus de 100 égorgements et décapitations. C'est la panique généralisée. La population monte contre la MONUSCO, ainsi de suite. Et voilà, la situation n'est pas très bonne, à mon avis. Mais au lieu de pointer du doigt la MONUSCO, au lieu de questionner la MONUSCO, je pense que nous devons nous questionner nous-mêmes. En 20 ans de crise, nous n'avons pas été en mesure de monter une armée performante qui soit capable de faire face au péril de sécurité nationale. C'est ça la grande question. Nous avons eu 20 ans, plus de 20 ans d'assistance, d'accompagnement, des réformes. Nous n'avons pas pas d'armée, c'est peut-être trop dire. Nous avons une armée vraiment visiblement faible qui ne sait pas faire face au péril de sécurité nationale. Et cette même MONUSCO aujourd'hui, cette même communauté internationale aujourd'hui que l'on questionne pour qu'ils nous assistent, mais il y a eu plusieurs rapports, mon frère. Il y a plusieurs rapports qui ont suspecté la connivence de beaucoup d'officiels congolais, de beaucoup d'officiers congolais avec des mouvements de subversion. Mais qu'est-ce que nous en avons fait? Kabila, on pouvait comprendre. Il s'est présenté comme un anti-occidental, mais aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Hein? Et tous ces maillons faibles, tous ces maillons subversifs sont toujours dans la chaîne de commandement. C'est ce qu'on ne comprend pas. Et c'est eux que l'on dit qui sont allés assister, qui sont sur le théâtre des opérations aujourd'hui. Mais on connaît le début, on connaît la fin. Ça ne va pas beaucoup changer tant qu'on restera sur la même ligne.
John Kanyunyu, journaliste indépendant et reporter de guerre, vous êtes correspondant de la Voix de l'Allemagne, Deutsche Welle, à Beni au Nord Kivu. Vous venez de suivre Freddy Chiyoyo, Jean-Claude Bimoala, qui estime que les problèmes seraient aussi, n'est-ce pas, à notre niveau, nous, Congolais, hein, au lieu de diaboliser la MONUSCO, nous devons avoir, n'est-ce pas, cette humilité-là, de nous poser la question de savoir pourquoi, en 20 ans, on n'a pas su mettre en place une armée à même, n'est-ce pas, de défendre la population ainsi que le territoire national.
Merci Guy. Je suis d'accord avec vous. Le gouvernement congolais devait faire quelque chose, monter une armée, bien qu'aujourd'hui on nous parle de FARDC, je ne sais pas, une 10e, si pas 11e armée puissante le continent africain. Je me dis, c'est bon, mais cela doit se sentir sur le terrain. Je parle de derniers massacres. Le lundi, à Pulupulu, dans un village Pulupulu, c'est dans la chefferie de Watalinga, c'est à près de 90 kilomètres au nord-est de Beni. L'ADF a encore tué 11 personnes ce jour-là, et aujourd'hui, on nous dresse un bilan qui n'est pas encore confirmé par des sources indépendantes, mais confirmé par la société civile. Le bilan passe de 11 à 18 morts. Donc, pendant que les opérations se déroulent, il y a l'ennemi aussi qui tue. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, on a découvert encore 3 corps à Oicha, non loin d'une barrière de Fonaire à Tenambo, et des habitants qui ont été tués par l'ADF.
John Kanyunyu.
Oui, Guy.
Voilà,
oui,
Guy, Jean-Claude Bimoala a relevé cela, n'est-ce pas? Comment vous expliquez que pendant que les FARDC sont en train de pourchasser, n'est-ce pas, l'ennemi est dans la cité en train de tuer la population, et surtout qu'il y a des experts qui disent que c'est ça les modes opératoires, n'est-ce pas, des EDF. Quand ils se sentent acculés, ils ont tendance à s'attaquer, n'est-ce pas, à la cible facile que la population civile. On savait que les EDF agissaient ainsi, mais pourquoi on n'avait pas pris dès le départ des dispositions, n'est-ce pas, pour protéger les civils?
Voilà, vous venez de le dire. L'ADF, nous l'appelons terroriste. C'est un mouvement terroriste. Et l'ADF tue en terrorisant ses victimes. Ça veut dire quoi? Quand il est coincé dans la profondeur, comme nous l'avons toujours dit, et la cible est facile, c'est la population. C'est déversé sur la population. Les 3 semaines passées, l'ADF a tué au niveau de la commune Moulekera, à Matiani, dans le quartier Matiani, c'est à l'ouest de la ville de Beni. D'habitude, l'ADF opère au niveau de l'Est. Donc, ça veut dire quoi? Quand il est coincé ici, il prend toutes ses dispositions et pour opérer à l'ouest. Et c'est ça qui est en train d'être fait. Jusque-là, depuis le 30 octobre dernier, la chefferie de Watalinga n'avait pas connu de massacre. Maintenant qu'on en est à 18 morts, ça veut dire quoi?
les FARDC sont en train de bien travailler. Et la population, je dois rappeler à mon confrère Freddy, qu'aujourd'hui, il y a un mariage scellé entre la population et son armée. Dire que la population ne collabore pas, je me dis, je ne sais pas, je vis sur quelle planète. La population collabore, et aujourd'hui, même, ça fait quelques jours avant ces échauffourées, la population était en train de soutenir son armée tout en lui apportant les non-vivres et même les vivres au niveau de la mairie. L'armée réceptionnait tout ça au niveau de la mairie, et aujourd'hui, heureusement, Dieu merci, il y a des numéros verts donnés à la population pour dénoncer tout cas suspect.
Merci.
Quand il y a des arrivistes, comme l'a souligné le confrère JC, maintenant tout est mis en place.
Merci.
Donc aujourd'hui, il n'y aura plus question de stigmatiser la population qui collabore avec son armée. Et ce n'est pas question que la population collabore avec des gens qui les tuent.
Merci,
c'est
merci.
Quand on accuse la population comme ça, là, je ne suis pas d'accord.
Merci,
je ne
John Kanyunu.
Collaborer avec quelqu'un qui va me tuer, qui va m'égorger.
Merci, Soyons. John Kanyunu. On a compris, Freddy Tuyoyo. À votre avis, comment faut-il mener ces opérations de manière à ce que les civils ne soient plus, n'est-ce pas, cette cible facile des EDF?
En fait, il s'agit là d'une guerre asymétrique. À mon avis, je pense que je ne voudrais pas ici employer l'expression du ministre hier de la Défense devant les élus du peuple. On n'est pas là pour livrer les secrets défense, mais à mon avis, je pense qu'ensemble, avec le consentement, avec l'appui, l'accompagnement de la population, on est à mesure d'ébouter l'ennemi dehors. Ce qui est fait est déjà bon, les résultats sont très bons, très probants, et ça rassure un lendemain meilleur. Aujourd'hui, le gouvernement a mis tous les moyens. On a fait l'érection des quartiers avancés au niveau des Béni. Il y a déjà des bons résultats. Je viens d'apprendre que John Numbi, sur instruction du chef de l'État, a rejoint M. Célestin Mbala sur place. En tout cas, je pense qu'avec les ressources, avec les effectifs doublés, avec les moyens nécessaires qu'on a mis à leur disposition, tout est possible que nous puissions fêter la Noël en paix, avec Béni pacifié, avec Béni où la paix règne, déjà avec le retour ou l'électrification de la ville depuis l'indépendance. Je pense que ce sont des signes qui ne trompent pas.
Merci.
Il faut appuyer le FARDC et c'est une très bonne chose.
Merci Jean-Claude Bimola. Il y a quand même un aspect qu'on ne relève pas souvent, c'est ce que pourrait être l'apport, n'est-ce pas, des pays voisins, les pays d'où proviennent, n'est-ce pas, ces groupes armés. Et à votre avis, quel pourrait être l'apport de ces pays pour, n'est-ce pas, nous aider, nous, RDC, à pouvoir mettre fin, finalement, à cette insécurité qui sévit dans cette partie du pays depuis plusieurs années?
Je pense pas qu'on doit compter sur l'apport de nos voisins. Ils ont suffisamment prouvé par les temps, par les événements, que nous ne pouvons pas compter sur eux et qu'ils sont pour une grande partie responsables de la situation que nous vivons aujourd'hui. Nous devons compter sur nos propres ressources. À la limite, on ne peut pas, dans les conditions actuelles, se passer de la MONUSCO parce que la guerre que nous avons déclarée asymétrique demande suffisamment de renseignements que nous n'avons pas, demande suffisamment de logistique que nous n'avons pas assez, et nous passer de la communauté internationale à travers la MONUSCO, c'est signer une carte blanche pour l'échec de la reconquête de la paix dans l'est du pays. Je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, il y a moyen. Il y a moyen aujourd'hui de répondre au cahier des charges de la communauté internationale qui nous questionne sur les maillons faibles de notre commandement, des maillons complices avec l'ennemi. On les connaît, les rapports existent. Il faut agir, il faut les écarter. On a le pouvoir et le président de la République a l'impérium pour cela. Je suis triste de voir que beaucoup de ces généraux qui sont aujourd'hui au front sont cités dans plusieurs rapports, et ne fût-ce que pour leur dignité, ne fût-ce que pour l'honneur de notre armée, ne fût-ce que pour l'honneur de toutes les victimes congolaises qui sont tombées sur le champ de bataille, ces gens-là doivent être relevés et punis, poursuivis. On ne peut pas faire la paix avec nos bourreaux. C'est impossible. Nous devons faire la paix avec la justice.
Voilà. Merci. John Kanyunu, il faut pacifier, pas seulement Béni, hein, mais pacifier tout l'est du pays. Et qu'est-ce que vous proposez à cet effet?
Moi, je pense que nous devons accorder une chance à ces opérations qui sont les dernières, selon le porte-parole de l'armée congolaise et le général-major Jean-Richard Léo Kasonga. Et je ne suis pas d'accord avec l'ami JC qui qui lui parle de généraux ou des commandants accusés ou je ne sais pas, qui font objet de certains rapports. Qu'il me cite un, le commandant des opérations, le commandant secteur, il s'appelle Nduru Nchaligonza. Son assegon, il s'appelle Chirimwami Nkuba. Est-ce qu'il peut me dire, il peut donner un rapport où ils sont cités comme complices ou je ne sais pas quoi, accusés par la communauté internationale? Je ne pense pas. Et je dois aussi le recadrer sur l'apport des pays voisins. Et là, je parle de l'Ouganda. Je suis un villageois et je me dis, quand il y a quelqu'un dans le village ensorcelé, seul le sorcier est en mesure de le sauver la vie. Voilà. Si nous accusons l'Ouganda ou si nous accusons le Rwanda d'être à la base de notre malheur par ricochet la communauté internationale, faisons avec l'Ouganda, appelons l'Ouganda, appelons l'armée ougandaise qu'elle vienne en appui au FRDC, parce que l'armée ougandaise a fait ses preuves, a montré de quoi elle était capable, et au Sud-Soudan, et en Centrafrique, et en Somalie. Et pourquoi pas ne pas faire appel à cette armée qui a tous les moyens et qui a toutes les ressources possibles pour en finir avec cette nébuleuse qu'est la ADF. Il ne faut pas souffrir des complexes. Nous devons nous mettre d'accord que notre armée n'a pas démérité, notre armée fait son travail, et s'il y a un appui venu ou qui peut nous venir de l'extérieur ou des pays voisins, où est le problème? Où est le péché?
Merci.
Comme ça, là, on se dira, s'il n'y a pas de résultats escomptés, on se dira, ok, nous, on pensait que c'est l'Ouganda qui nous faisait la guerre, ou c'est le Rwanda qui nous faisait la guerre, mais la réalité sur terrain est tout une autre.
Merci, John.
Donnons la chance au FRDC et donnons la chance à l'armée ougandaise qui peut nous venir en appui, parce que, selon les informations à ma perception, l'armée ougandaise est prête de venir et appuyer les FRDC dans cette guerre qui fait aussi que souffrir le peuple congolais, pour ne pas ricocher le peuple ougandais, parce que c'est un seul peuple, bien que séparé par la frontière.
Merci. Voilà. Merci. Nous allons passer.
N'ont pas le même agenda au Congo.
Ça nous permet de passer à notre deuxième thème de ce soir. Au Congo central, le gouverneur de la province a été destitué par une motion de défiance examinée et votée par un groupe de 24 députés présents mercredi dernier à l'hôtel Bilolo. C'est ici que la plénière a été délocalisée suite aux incidents qui ont émaillé celle tenue précédemment et le même jour. Pour le député provincial Masumbu Baya, initiateur de la dite motion, Atuma Tubwana et son adjoint ont 48 heures pour déposer leur démission au chef de l'État. Il accuse par ailleurs Atuma Tubwana d'être l'instigateur du désordre de mercredi dernier à l'Assemblée provinciale. Nana Pluriche pour le détail.
Les 24 députés provinciaux qui ont destitué le gouverneur estiment qu'ils ont droit de délocaliser la plénière à un hôtel d'après les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale. Selon l'initiateur de la motion, le gouverneur Atuma Tubwana et ses partisans ont été à la base des incidents d'hier lors de la première plénière.
Les collègues députés de son camp, ils ont cassé le bureau du président. Donc Atuma Tubwana a donné de l'argent à tous les services de l'État ici pour que l'Assemblée ne soit pas protégée. Dans quel pays sommes-nous? Quelqu'un qui est accusé pour un problème de mimiguette et il donne la corruption à tout le monde.
Les 17 députés, dont 3 membres du bureau qui attendaient le redémarrage de la séance suspendue pour 4 minutes par le président, se disent surpris de la délocalisation de la plénière à l'hôtel sans qu'ils ne soient informés. Dans une déclaration faite hier soir et lue par les rapporteurs de l'Assemblée provinciale, ces derniers fustigent le comportement d'Anatole Matoussi, la présidente de l'Assemblée provinciale. Pour eux, le vote visant la déchéance du gouverneur Matoubouana ne sera pas pris en compte.
En cas de circonstances exceptionnelles empêchant l'Assemblée provinciale de se réunir, son bureau peut décider du lieu qui abritera provisoirement les travaux de l'Assemblée provinciale. Étant donné que le bureau ne s'est pas réuni pour la délocalisation des activités de l'Assemblée, la décision prise par le président est nulle et non avenue.
Pour l'heure, les députés qui ont destitué Atuma Tubwana sont en train de préparer un procès verbal destiné aux autorités du pouvoir central. Matadi, Nana Pluriche Mambou, Radio Okapi.
Merci à vous, Nana Pluriche Mambou, Jean-Claude Bimola. Cette tension qui prévaut au Congo central, comment vous l'analysez?
Bon, pour moi, c'est cette tension et plusieurs autres événements, ce sont les expressions des rivalités de deux de deux familles politiques qui forment la coalition au pouvoir qui s'exprime maintenant au grand jour. Dans les entreprises publiques, nous avons vu que les ordonnances de nomination des mandataires, les ordonnances prises par le chef de l'État n'ont jamais été exécutées à la SNCC, ni moins encore à la Gécamines, jusqu'à aujourd'hui. Et rien n'est fait. Dans la territoriale, nous avons vu que le vice-premier ministre avait suspendu l'arrêté portant nomination de ou permutation de bourgmestre dans différentes provinces, et cet arrêté n'a jamais connu un niveau d'exécution. Au Congo central, c'est le FCC qui est malheureusement ou heureusement majoritaire à l'Assemblée provinciale, et c'est elle, malheureusement ou heureusement, qui doit diriger l'Assemblée provinciale et la politique. Et la politique provinciale au Congo central, on peut tout dire. C'est cette incohérence, cette rivalité qui fait que le désordre est difficile à gérer aujourd'hui. Je vais revenir un peu, mais je pense que mon confrère peut en dire autant.
Oui, Fradi Tshioyo, il y a eu ces scandales sexuels dans lesquels étaient impliqués les vice-gouverneurs de cette province, mais on a l'impression que la situation prend des proportions inquiétantes, ce qui fait qu'une certaine opinion estime que la situation a été dès le départ mal géré, et une autre pense plutôt qu'il y aurait des forces qui souhaiteraient, n'est-ce pas, voir les chaos s'installer dans la province du Congo central. Vous avez suivi l'analyse de Jean-Claude Bimoila qui estime que ça c'est l'expression, n'est-ce pas, de la rivalité entre les deux familles qui constituent cette coalition au pouvoir.
Je le concède, son point de vue, l'expression des rivalités, bon, son point de vue, mais je ne voudrais pas abonder dans son sens. Mais d'abord, commençons par le commencement. Nos amis du FCC, à quel jeu ils jouent? Atou Matoubouana s'est fait élire avec un label d'indépendant face à au ticket FCC Mbachimbacha. Il a battu.
Mais tous deux membres du FCC.
Peu importe, c'est le cas l'Ituri aussi, mais c'est pas mal, ça a été dit indépendant aussi. Donc, c'est quoi cette malhonnêteté intellectuelle? Quelqu'un que vous ne soutenez pas s'est fait élire avec bravoure et non, il est du PPRD. Non, c'est malhonnête. Pire encore, l'affaire de la sexualité, je pense que dans cette histoire, il y a des cas de jurisprudence au niveau du FCC. Il ne faut pas les énumérer ici. Si vous remontez la filière, en tout cas, ils n'ont pas de soin de nos gens, ces gens du FCC. On a vu des ministres d'État, des vice-premiers ministres, en train de se faire du bien, plaisir, dans un bureau, avec le porte de l'État derrière, ils ne sont pas en prison. Entre autres, je pense qu'ils doivent avoir un peu de retenue, un peu de réserve.
Et donc, vous voulez dire...
Je n'encourage pas les moralités.
Si on vous a bien compris, vous voulez dire par là que les scandales sexuels n'a été que, n'est-ce pas, les prétextes utilisés par les FCC pour récupérer ces pouvoirs-là qui semblaient lui échapper au Congo central.
Et puis, dans un laboratoire pharmaçonnique pour dessuyer le gouverneur. Je ne suis pas pro à Matoubouana.
Vous semblez être dur vis-à-vis du FCC. Hein?
Non, ça veut dire quoi? C'est malhonnête. Parce que le scandale sexuel dans ce pays-ci, on en a vu. On a vu les ministres d'État, les vice-premiers ministres, même nos enfants ont vu ça, mon cher ami. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas ce temps-là? M. Chadari, VPM à l'intérieur, n'a-t-il pas suspendu l'Assemblée provinciale? N'a-t-il pas fait venir les gouverneurs ici pendant autant de mois?
Alors comment vous expliquez cette situation? Les fonds du problème, c'est quoi?
J'essaie, le timing est bien calculé. Le PGR instruit le roi délibérant au niveau de Matadi d'élever l'immunité de M. Matoubouana. Les majoritaires FCC, à la fois de l'Égypte, refusent, ils s'opposent au monsieur Matoubouana. 3 mois se passent. L'intérim ne passe pas 3 mois. Et qu'est-ce que le VPM a à voir de l'intérieur lorsqu'il le réhabilite? On a vu monsieur Simon Kimokengani faire le déplacement de Kinshasa, rencontrer le chef de l'État. Au menu, parmi les points à discuter, on parle de la situation chaotique au Congo central. Le soir, le VPM réhabilite Matoubouana. Mais vous savez la majorité, comme ils ont fait là. Mais faites recours aux moyens légaux en la matière de situer-les. Mais pourquoi est-ce que ce chef voilà tout bon night? Non. Je pense que vous avez fait n'ont pas de l'histoire de nos gens. Ils doivent même pas avoir de la retenue, un peu de réserve.
Voilà, en fait, il y a eu cette motion qui a été votée par un groupe de députés qui ont délocalisé la plénière. Comment vous jugez cette démarche?
Je pense que c'est mal fait. Il y a, dans ce cas-là, il faut aussi appliquer la jurisprudence sur l'Ituri. Lorsque les députés ont vu leur bureau scellé se retrouver sous ces manguets. Ils ont décidé de Bamané ça. Cela n'a pas concouru à sa destitution. Bamané, c'est toujours gouverneur aujourd'hui. Ces gens-là qui ont quitté l'endroit indiqué pour aller circuler dans un hôtel, je pense que le cadre n'est pas propice, le cadre n'est pas indiqué pour trancher sur la question. Donc aujourd'hui, Matouba Touba n'est pas démissionnaire. Il a été rappelé par le verbe à l'intérieur, lui et le président Motusila, pour débattre sur la question. Donc j'ai comme l'impression que nous amis du FCC, lorsqu'on leur rappelle ce qu'ils ont fait le mandat passé, que non, on ne sait pas comme ça, ici s'énerve en fait.
Merci, merci. John Kanyunu, de Beni, comment vous analysez cette tension qui prévaut au Congo central?
Guy Maté, je suis vraiment un peu déphasé de voir cette équipe-là des gouverneurs du Congo central avoir des avocats, des surcroît, des journalistes. Je me dis, le vice-gouverneur a fait ce qu'il a fait et tout le monde l'a vu. Et je me dis, dans un pays qui se respecte, ces gens devaient présenter leur démission. Voilà. On ne serait pas dans ce blablabla, dans ce théâtre qu'on vit aujourd'hui, ou qui sont vécus aujourd'hui. Je pense que on doit surpasser ces appartenances politiques, ces caches, je ne sais pas quoi. Soignons l'image de notre pays. Des gens qui sont tombés dans cette histoire-là, normalement, s'ils étaient conscients, ils ne devaient plus retourner à Matadi, exercer leur fonction.
John,
je me dis,
John,
on est où là?
John,
ces gens doivent être destitués par l'Assemblée provinciale.
Oui, vous rappelez le scandale
vécu. C'est une honte pour la République.
Voilà, c'est une honte pour la République. Mais ceux qui semblent soutenir Atou disent que il n'y a pas d'éléments, n'est-ce pas, qui attestent l'implication de Atou dans ce scandale. Parce que dans la vidéo, on n'a pas vu les gouverneurs Atou, on a plutôt vu son vice-gouverneur.
S'il vous plaît, chers confrères, on a vu le chef de l'ANR, du renseignement, on a vu le chef de la police. Que voulez-vous qu'on prenne? C'est un piège, c'est connu par tout le monde, bien que cela ne soit pas encore prouvé par la justice, mais c'est connu que le vice-gouverneur était piégé.
Merci.
Et puis je me dis, ils doivent être conséquents, qu'ils démissionnent pour barre.
Merci, voilà. Jean-Claude Bimoana, je crois que ce qui importerait maintenant, c'est de parler de comment développer cette province du Congo central, comment vous entrevoyez l'avenir. Qu'il faut-il faire, n'est-ce pas, pour sortir de cette crise, afin finalement de se pencher sur le développement de cette province?
Non, je voulais dire que le vice-premier ministre à l'intérieur, je pense que la loi, quand on est juge quelque part, lorsqu'on dirige, les droits ne suffisent pas, les droits ne résolvent pas tout le problème.
Vous voulez dire quoi par là?
Il y a les droits, il y a la sagesse et il y a plein d'autres éléments dont il faut prendre en compte. Dans le cas d'espèce de Congo central, Atou n'est peut-être pas visiblement ou légalement responsable. Mais c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque le vice-premier ministre, je pense, je ne connais pas bien les droits sur la question de la démission. Lorsque le vice-gouverneur présente sa démission, je pense que c'est Atou qui tombe directement.
Merci.
Aussi. Et dans le cas d'espèce, si Atou ne se reproche de rien, mais il doit accepter de remettre son mandat à l'Assemblée provinciale, d'échanger peut-être des tickets. Mais pourquoi s'accrocher et freiner, retenir pour vos propres ambitions personnelles la bonne marche des milliers de Congolais? C'est là qu'il y a problème. On n'a pas d'éthique dans ces pays.
Comment faire pour développer cette province? Ça sera la conclusion.
Non. Pour développer le Congo central.
Oui.
Non, en fait, ce qu'a dit notre ami Bimoala, c'est une question d'éthique seulement. Vous comprenez un peu? Mais il ne faut pas dire que
donc,
non.
Donc, les gens tirent les conséquences de cette situation et puis...
Moi, je ne soutiens pas l'immoralité. Mais je ne vois pas M. Julien Louemba Makosso se filmer et puis s'exhiber devant la place publique. Il a été piégé. Alors, les débats sexuels, tout le monde en a.
Mais alors, comment vous installez la suite?
La suite, c'est que il faut que nos amis de FCC comprennent que il faut faire prévaloir l'état des droits. Aujourd'hui, à toute réhabilité, recourir par la même voie légale pour qu'il puisse démissionner ou le contraindre à démission. Mais faire le contraire, c'est fouvoyer, vouloir créer des crises inutiles au niveau des institutions.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Dieudonné Nyangasa qui était à la technique et à Kelly Nkouté qui a réalisé cette émission sous la supervision d'Alain Irungo. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi.